Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Clément Salazar, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Suite de notre série donc consacrée à ce thème, vivre en temps de guerre, après avoir évoqué les conditions de libération de la ville irakienne de Mossoul, tenue depuis 3 ans maintenant par Daesh et sur le point d'être reprise par les forces libératrices, après avoir évoqué hier la question des viols utilisés comme armes de guerre, troisième volet donc de notre série, nous allons parler donc de Gaza, l'économie de survie à bout de souffle.
En tant que jeunes et citoyens de Gaza, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a plus d'horizon. Nous n'espérons pas que les choses s'améliorent à cause du blocus. Des milliers de diplômés voient tout en noir parce que le siège a stoppé toute forme de vie à Gaza.
Je suis venu ici pour retirer mon salaire, mais nous sommes le 10 du mois et il n'y a rien. C'est très dur pour nous. Nous avons demandé à la banque, mais ils nous ont répondu qu'ils n'ont aucune information sur les salaires des fonctionnaires.
Avant, c'était facile. La vie était très bonne. On savait que quand l'électricité commençait à 15 heures, elle durait jusqu'à 22 heures. On connaissait les horaires.
Voilà, extrait de reportage de RFI et d'Euronews. Depuis le début de la semaine, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza n'ont plus que 2 heures d'électricité par jour, contre 4 heures en avril et 3 heures en mai. Selon Amnesty International, l'enclave court le risque d'une catastrophe humanitaire imminente. Les hôpitaux fonctionnant grâce à des générateurs qui pourraient ne pas tenir l'été malgré l'aide des Nations Unies. Depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007 qui a entraîné le blocus de la bande de Gaza par l'Égypte et Israël, la situation n'a jamais paru aussi désespérée pour les Gazaouis. Dès 2015, l'ONU disait que l'enclave serait inhabitable d'ici 2020. 50 ans après la guerre des 6 jours qui a marqué le début de l'occupation des territoires palestiniens, comment les Gazaouis parviennent-ils à vivre malgré le manque de médicaments, d'infrastructures et le manque d'avenir? L'économie de subsistance peut-elle encore durer alors que l'aide internationale s'amenuise? Et qu'en est-il de la colère des Gazaouis? Pourrait-elle finir par se retourner contre l'autorité palestinienne ou même contre le Hamas plutôt que contre l'occupation israélienne? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous accueillons Ala Abou Assira. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes première conseillère à la mission de Palestine en France. Vous êtes originaire de Gaza. Une grande partie de votre famille y vit toujours. Vous êtes rendue très récemment sur place, Ala Abou Assira, pratiquement 6 semaines. C'était au mois de mars-avril.
C'est ça.
Quelles ont été vos impressions générales? Je crois que la situation s'est beaucoup dégradée depuis votre précédent séjour et que vous me disiez juste avant de prendre l'antenne que vous n'imaginiez pas, alors même que vous êtes très bien informé, que vous n'imaginiez pas l'état de la situation actuelle.
Tout d'abord, merci pour l'invitation sur l'antenne de France Culture. Et c'est vrai, j'étais récemment dans la bande de Gaza rendre visite à ma famille que je n'ai pu voir depuis des années. Faute d'obtenir une autorisation israélienne. Comme vous le savez, tout Palestinien a besoin d'une autorisation israélienne d'entrée et de sortie dans la bande de Gaza. Comme vous le savez, la bande de Gaza et sa population de 2 millions d'habitants, ce qui fait l'endroit le plus peuplé dans le monde, vit aujourd'hui dans une situation d'extrême précarité et au bord d'une crise humanitaire suite au blocus inhumain et illégal imposé par Israël. Je précise que le blocus est imposé par la force occupante Israël. Depuis le début de ce blocus qui dure aujourd'hui depuis 11 ans, il y a un effondrement total des services vitaux pour la population suite principalement aux 3 agressions militaires israéliennes sur la bande de Gaza qui ont détruit entièrement les infrastructures des services vitaux dans la bande de Gaza. Et là, je parle de domaine de santé, domaine de l'éducation, les services principaux au quotidien.
La question de la santé, c'est un domaine qui est particulièrement préoccupant aujourd'hui, probablement l'un des domaines les plus préoccupants. C'est une enclave qui est aujourd'hui quasiment entièrement privée de médicaments, en particulier les anticancéreux qui peinent à être acheminés, provoquant, on l'a lu dans certains papiers, le décès de plusieurs malades qui n'ont pas pu bénéficier ou à qui on a refusé tout simplement le transfert médical, soit vers la Cisjordanie, soit vers Israël. La situation sanitaire est extrêmement préoccupante, une fois encore.
Bien sûr, elle est extrêmement préoccupante et alarmante même, faute de l'électricité d'abord. Comme vous le savez, la bande de Gaza est privée de l'électricité sur 24 heures depuis des années, suite aux trois agressions israéliennes sur la bande de Gaza, je le rappelle, car il y avait trois centrales principales dans la bande de Gaza qui alimentaient toute la bande de Gaza en électricité. Ces centrales ont été bombardées. Le dernier qui fonctionnait partiellement a été bombardé lors de l'agression de 2014 et depuis il fonctionne avec une capacité de 10% avec le fuel vendu à la compagnie de l'électricité par Israël. Il y a trois jours, Israël a mis en exécution sa décision de réduire l'alimentation, l'approvisionnement de la bande de Gaza de 35% de fuel, ce qui représente une heure de moins sur les trois heures actuelles fournies à chaque foyer palestinien dans la bande de Gaza. Et ça a des répercussions, bien sûr, sur le secteur de la santé, sur le fonctionnement des hôpitaux.
Oui, parce que jusqu'ici, les services hospitaliers, en tout cas les plus sensibles, utilisent des groupes électrogènes, dans bien les urgences sûr. Pédiatriques par exemple, dans les services de dialyse, où évidemment une rupture de ventilation artificielle pourrait être dramatique. Mais là aussi, le fuel pour les groupes électrogènes, commence à manquer. Il y avait eu des approvisionnements d'urgence, mais là, vraiment, les réserves commencent à manquer.
Ils commencent à manquer, et c'est pour cela que cette semaine, les hôpitaux principaux ont annulé, par exemple, les chirurgies principales dans les hôpitaux palestiniens. On a peur aujourd'hui pour la vie des personnes les plus fragiles, surtout les personnes âgées qui ont des pathologies chroniques, qui sont hospitalisées, pour les nouveau-nés. Il y a des mortalités au quotidien aujourd'hui parmi les nouveau-nés et moi je crains que la crise va s'accentuer et on va j'ai peur de trouver de nous trouver face à une situation de perte de vie très accélérée au sein de ces personnes les plus vulnérables.
Ala Abou Assira, pour bien comprendre les choses, il y a évidemment dans cette crise de l'électricité le rôle et la responsabilité d'Israël, mais il y a aussi quand même une crise inter-palestinienne, puisqu'il y a cette décision de l'autorité palestinienne en avril dernier d'arrêter de payer les factures pour la bande de Gaza, qui reçoit l'électricité, vous le disiez, via Israël. Le pari de Mahmoud Abbas, c'est de mettre le Hamas sous pression, de le forcer à accepter un compromis politique. Et d'ailleurs, les baisses des salaires aux fonctionnaires, amputées encore de 30% en avril dernier, sont aussi dans cette logique. Est-ce qu'il peut gagner son pari, entre guillemets, Mahmoud Abbas? Est-ce que le Hamas pourrait se retrouver forcé à accepter un compromis, selon vous?
Le pari du président Abbas, c'est de parvenir à un accord de réconciliation interpalestinienne qui nous ramène à une unité palestinienne pour faire face ensemble à l'occupation militaire israélienne de territoires palestiniens occupés, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza. L'autorité palestinienne a subventionné le coup d'État militaire de Hamas, qui a eu lieu le 15 juin 2007. L'autorité palestinienne a continué à payer les salaires des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a continué à subventionner les deux secteurs vitaux de la bande de Gaza, c'est-à-dire le secteur de la santé, avec l'approvisionnement des médicaments envers le secteur de la santé dans la bande de Gaza et subventionner aussi le secteur de l'éducation. On est arrivé à un stade
sauf que là, clairement, elle met la pression en baissant les salaires des fonctionnaires,
en arrêtant de payer la fourniture d'électricité.
La baisse de salaire des fonctionnaires, ça vient suite à une crise financière très très aiguë à laquelle fait face l'autorité palestinienne, faute de la diminution de l'aide internationale et faute de la restriction de versement des taxes et des douanes retenues par Israël.
Mais je repose ma question. Est-ce que le Hamas est disposé à envisager un compromis, puisque quand même, une fois encore, c'est le pari de Mahmoud Abbas?
Le Hamas n'a pas de choix que de revenir à la maison palestinienne, revenir à sa famille palestinienne et s'éloigner des pressions et de l'influence des acteurs extérieurs.
Ça, c'est ce que vous dites, mais le pari du Hamas, il n'est pas celui-là. Le pari du Hamas, il est de déclencher un plan d'aide internationale d'urgence pour venir en secours aux populations. Il y a deux paris qui sont différents.
Vous savez, le Hamas a formé ce qu'on appelle le comité administratif. Il l'a formé en mars dernier. Ça représentait, c'était une sorte de créer un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement illégal pour substituer au gouvernement d'union nationale déjà existant avec l'autorité palestinienne. Pour nous, cette formation de ce comité administratif était le signe de non-sérieux de Hamas d'aller envers la réconciliation palestinienne. Suite aux pressions extérieures et surtout le mouvement de frères musulmans qui souhaitait à tout prix une réussite d'un gouvernorat islamique, peu importe où. Et il misait sur la réussite de Hamas et c'est pour ça que des subventions ont été présentées au Hamas pour tenir sur le terrain dans la bande de Gaza. Nous, aujourd'hui, nous espérons que le Hamas s'éloigne de ses influences régionaux qui n'encouragent pas une réconciliation palestinienne et qu'elle revient à la famille palestinienne sans une référence internationale pour former justement un gouvernement d'union nationale qui prépare des élections présidentielles et législatives. Et ça serait la vraie démocratie qu'on a connue, soit en 1996 ou en 2006. Revenir à la démocratie, revenir aux urnes, et ceux qui gagnent gouvernera et assumera ses responsabilités. En reconnaissant, bien sûr, le programme politique de l'OLP, en reconnaissant les accords signés déjà avec Israël.
Quittons peut-être un petit peu la lutte fratricide entre le Fatah et le Hamas, parce qu'on la réévoquera tout à l'heure avec un autre invité, Ricardo Bocco, donc on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on se place du côté de la population et qu'on analyse finalement la manière dont elle perçoit ce bras de fer entre le Hamas et le Fatah. Est-ce que vous pensez que finalement cette situation fragilise davantage le président de l'autorité palestinienne, qui est quand même déjà dans un grand manque de légitimité, même si vous pouvez le regretter, c'est en tout cas le cas, ou est-ce qu'elle fragilise selon vous encore plus le Hamas qui s'avère incapable finalement de garantir un minimum vital à la population?
Écoutez,
plaçons-nous du côté, s'il vous plaît, de la population.
La situation actuelle ne bénéficie à personne. Elle est bénéfique à personne. Ni à l'autorité palestinienne, ni au Hamas, et surtout ni à la population palestinienne qui vit depuis 11 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous un blocus inhumain. La population subit d'abord une restriction de mouvement. On a évoqué tout à l'heure la notion de liberté. C'est le mot qui est répété tous les jours, toute la journée à Gaza. Liberté. On voudrait être libre. On a le droit à être libre, à pouvoir voyager, à pouvoir se soigner. Les malades n'ont pas le droit aujourd'hui à aller soit dans des hôpitaux de la Cisjordanie ou dans des hôpitaux israéliens ou aller à l'étranger se soigner. Les étudiants qui veulent étudier à l'étranger n'ont pas le droit à une autorisation israélienne de passage pour sortir étudier. Aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui ont des visas pour voyager à l'étranger pour beaucoup de raisons, qui n'ont pas le droit de passer.
J'entends bien, mais je repose ma question, s'il vous plaît. Qui va payer le plus? Pour qui le coût politique sera le plus dur? Est-ce que ce sera pour l'autorité palestinienne, le Fatah ou est-ce que ce sera pour le Hamas? À qui aujourd'hui est-ce que la population en veut le plus? Parce que la situation, elle est aussi le produit de ce bras de fer, une fois encore, entre les deux parties.
Écoutez, comme je vous ai dit, personne n'est bénéficiaire de cette situation. Notre seul bénéfice sera...
Quand vous êtes rendu à Gaza, tout le monde vous disait le principal responsable de tout ça, c'est Israël.
L'occupation
et personne ne mettait sur la table cette question du bras de fer entre le Fatah et le Hamas.
Non, c'est présent, sûr, c'est présent.
Alors,
dans les esprits. Le Hamas et son bras de fer sur le terrain à Gaza. Un bras de fer sécuritaire avec l'intimidation constante de la population, avec l'oppression de liberté, liberté d'expression, la liberté de se manifester, la liberté de critiquer le Hamas. Nous avons vu en 2013, il y avait toute une mobilisation sur le terrain contre la division interpalestinienne de la part de la jeunesse palestinienne. Et nous avons vu tous sur les écrans comment le Hamas, les forces de sécurité de Hamas ont opprimé cette mobilisation et cette initiative prise par les jeunes. Personne n'est bénéficiaire. C'est pour cela, je répète, on a intérêt aujourd'hui de sauver notre population, nos 2 millions de Palestiniens à Gaza et se réconcilier avec un agenda clair, un agenda national clair et pour combattre justement le blocus et l'occupation israélienne.
J'entends votre discours et cette idée que la répression est peut-être un élément sur lequel la population débat énormément et dénonce d'une certaine manière cette répression du Hamas. Mais en réalité, cette peur des Palestiniens, elle est partagée s'agissant du Fatah et du Hamas. Regardez une étude très récente, décembre 2016, une étude du Palestinian Center for Palestinian Survey, qui révèle que 55% des personnes qui ont été interrogées dans cette étude avaient peur de critiquer les autorités locales. Et quand on regarde sur la bande de Gaza en particulier, ça monte à 68%.
Bien sûr, l'autorité locale, c'est pas seulement pour la bande de Gaza,
c'est partagé. Mais c'est vrai que c'est encore plus important pour la bande de Gaza. Quels sont les moteurs de cette peur, selon vous?
Comme je vous ai dit, c'est la main de fer de Hamas. C'est le fait de facilement mettre en prison tout militant sur le terrain, tout journaliste. On a vu récemment dans la bande de Gaza, la semaine dernière, 3 journalistes qui ont tout simplement critiqué le Hamas, critiqué le problème de l'électricité et la responsabilité engagée aussi de Hamas.
Mais c'est vrai aussi concernant le Fatah.
Le Fatah n'est pas, il faut le préciser, le Fatah ne gouverne pas le Gaza aujourd'hui.
Absolument, non, j'ai bien compris, mais c'est vrai aussi pour les Cisjordaniens qui vivent sous le Fatah.
Écoutez...
55%. Regardez par exemple, février 2016, il y avait une grande manifestation, et notamment des enseignants palestiniens. Et on se souvient que leur revendication, c'était il faut mieux payer les professeurs. Mais on voit bien qu'il y avait... On contenait un petit peu les revendications. C'était des revendications sur le mode il faut mieux payer vos enseignants si vous voulez que vos enfants portent encore ce projet d'un État palestinien. On sent bien qu'il y a... On a limité l'affrontement avec les autorités locales.
Écoutez, les revendications, soit que ce soit des enseignants ou des médecins ou de la jeunesse, sont parfaitement légitimes, comme c'est le cas
absolument,
en France.
Bien sûr,
on voit des manifestations beaucoup plus grandes.
Il n'est pas question de ça, évidemment. Bien sûr qu'elles sont légitimes.
C'est ce qui est légitime. Les gens ont le droit de demander toujours plus.
Mais ils ont peur de demander.
Ils demandent. Regardez juste l'actualité, tout simplement. Il y a tous les jours des gens qui s'expriment, qui demandent une amélioration de la situation économique, conditions de paye des enseignants, des médecins.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils demandent et qu'ils se mobilisent à la hauteur de la situation, à la hauteur de la misère, à la hauteur des guerres, à la hauteur des conséquences du blocus? Finalement, les Gazaouis restent relativement résistants, ils encaissent, ils ne montrent pas tant de signes d'énervement que cela.
C'est un reproche qui est souvent fait envers la population gazaoui. C'est fait souvent à l'envers de la population gazaoui en disant « Mais comment vous pouvez tenir 11 ans sous le blocus? Pourquoi vous ne révoltez pas ?» Il ne faut pas oublier que la population gazaoui a vécu 3 agressions militaires dévastatrices récemment. Les conditions de vie au quotidien n'ont rien à faire avec le terme « vie » au quotidien. La population est épuisée. Elle est épuisée et elle veut voir une perspective politique.
Alors, justement, peut-être la perspective politique, parce que ça joue aussi peut-être dans ce que j'avais l'air de dénoncer, mais je ne dénonce pas, je constate et j'essaye de comprendre les moteurs de tout ça. C'est ce manque, cette défiance justement à l'égard des politiques. La société palestinienne, elle a ceci de très particulier, que c'est une société extrêmement jeune. 70% des Palestiniens ont moins de 30 ans. Autre enquête, toujours de l'Institut Palestinian Center for Policy and Survey, qui indique que 33% des sondés déclarent ne pas apporter de soutien à un quelconque parti politique. Il y a une vraie défiance, en particulier des jeunes générations, à l'égard des responsables politiques palestiniens. Ils se sont progressivement, mais là, peut-être que je voudrais vous entendre sur ce point, dépolitisés. Alors, essayons de comprendre ça. Et à quand est-ce que vous faites remonter ce phénomène? Est-ce que vous le constatez d'abord, vous?
Non, j'en suis pas très d'accord avec vous sur ce point. Tout Palestinien est né politisé.
Vous niez l'idée qu'il y aurait une forme de dépolitisation, de défiance grandissante à l'égard de la classe politique palestinienne dans son ensemble?
Peut-être il y a une déception. Il y a une déception au sein de la population. Mais nous avons grandi, moi, ma génération, on a grandi avec le Fatah, comme le pilier national, le mouvement de Fatah qu'on connaît depuis vraiment la naissance. Et beaucoup de générations ont suivi avec cette culture de lutte pour la libération de la Palestine. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une déception globale, surtout dans la bande de Gaza, quand on voit les chiffres, il suffit de voir les chiffres de chômage dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, on a 70% de la population qui vit d'abord sur l'aide alimentaire. 70%. 70% qui vit au-dessous du seuil de pauvreté dans la bande de Gaza. Le chômage dépasse les 45%, c'est record dans le monde, de la population civile, avec une hausse de chômage chez les jeunes de moins de 30 ans. Et ça atteint les 80%. Je comprends la déception. Aussi, il y a la fermeture des points de passage, il y a la restriction de liberté, de liberté de mouvement. La situation économique à Gaza. Il n'y a plus de vie économique. Il y a plus, les usines sont en train de fermer, les magasins sont en train de fermer.
D'une certaine manière, vous allez dans mon sens, toute cette situation aussi nous permet de comprendre le fait que précisément on se dépolitise, qu'on n'a plus confiance dans ces responsables politiques qui, d'une certaine manière, depuis tant d'années, ne parviennent pas à faire avancer les choses.
Et la population attend aujourd'hui une unité palestinienne. Une unité palestinienne, comme j'ai dit, qui nous aide à faire face à l'occupation israélienne. La population attend le lever de blocus israélien.
Mais est-ce que vous pensez que tout ça pourra venir de la génération politique d'aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que ces jeunes, justement, n'attendent pas, d'une certaine manière, d'avoir, elles aussi, un renouvellement de sa classe politique dans son ensemble?
C'est légitime. C'est légitime.
Mais vous l'entendez? Ce sont des discours que vous entendez?
Pas vraiment, mais j'entendais beaucoup de déception, beaucoup de envie de sortir de cette impasse, de sortir de cet enfermement, de sortir de cette prison à ciel ouvert. J'entends, j'ai vu un désespoir total, mais en même temps, j'ai vu une force incroyable chez la population gazaoui, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit chez les adultes, les personnes plus âgées. Une force de tenir sur le terrain et de dire on est là, on aime la vie, on a envie de survivre, de résister, de persister, malgré malgré... c'est ce qui m'a étonnée. Moi-même, j'étais étonnée par cette force qui existe encore chez ces jeunes et l'espoir. L'espoir d'un changement, l'espoir d'une unité palestinienne, l'espoir d'une stabilité, l'espoir de, d'avoir des conditions de vie normales comme partout dans le monde.
Et est-ce que de cette force, de ce désir de changement, pourrait naître justement une forme de renouveau du paysage politique ? Est-ce que, par exemple, les jeunes vous disent « on en a marre de ces anciens et on voudrait de nouvelles figures ?» Et est-ce que vous voyez peut-être émerger dans le paysage politique des personnes susceptibles d'incarner ce renouveau ?
Écoutez, le Fatah a tenu sa 7e conférence en novembre dernier. Oui. Avec une représentation des Palestiniens de la bande de Gaza. Et le Fatah a élu, réélu, renouvelé ses institutions et ses instances internes dans un processus extrêmement démocratique et transparent. Le peuple s'est exprimé, les représentants de peuple se sont exprimés dans des élections parfaitement démocratiques et transparentes au sein de Fatah. Et ça a donné en fait l'accès aujourd'hui à une génération plus jeune.
Le renouvellement
l'expérience,
est en cours.
Nous avons toujours besoin de l'expérience des anciens, des plus anciens.
Vous dites que le renouvellement passe, est en cours.
Elle est en cours et ça se passe via les urnes. Ça se passe via un processus démocratique, transparent et légitime. C'est ce qui s'est passé en novembre dernier lors du congrès de Fatah.
D'accord, donc la nouvelle génération est en train d'arriver.
Elle est en train d'arriver, c'est tout à fait normal. Comme on
non,
a
mais
vu
d'ici, on ne la voit pas toujours. Alors c'est important d'avoir le regard précisément d'une personne qui a l'occasion, qui suit évidemment de très près tout ça, et qui a l'occasion d'aller sur place et de nous rapporter justement ces mouvements-là. Parce que le dégagisme, il n'y a pas de raison que finalement les Palestiniens n'y aspirent pas non plus. Enfin, je veux dire, ça touche beaucoup de personnes, on l'a vu nous ici en France, donc on peut comprendre que ça concerne aussi les Palestiniens.
Bien sûr. Je rappelle le noyau dur qui a formé l'organisation, l'OLP, c'était les jeunes à l'époque, ils étaient des étudiants.
Oui, à l'époque.
Et on est dans ce renouvellement.
On est avec Alaa Abou Assira, on parle de Gaza, l'économie de survie à bout de souffle. On va accueillir un nouvel invité pour continuer à évoquer notamment cette lutte politique entre le Fatah et le Hamas. Retour en 2006.
Victoire écrasante du Hamas. 76 sièges contre 46 pour le Fatah, soit la majorité absolue. Après la démission du premier ministre palestinien ce matin, l'organisation islamiste radicale tend la main au chef de l'autorité palestinienne. Elle lui propose de former un gouvernement de coalition.
Nous en appelons à Mahmoud Abbas pour que ces élections soient l'occasion de renforcer l'unité nationale et le système politique basé sur le pluralisme.
Voilà, extrait du journal de France 3 2006. On va accueillir un nouvel invité, Ricardo Bocco. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes sociologue, un spécialiste du Proche-Orient et professeur à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à l'Université de Genève. Janvier 2006, le Hamas remporte les élections législatives avec 56% des suffrages, emporte la majorité parlementaire aux dépens du Fatah. Rappelez-nous peut-être dans quelles conditions se fait l'arrivée du Hamas, et notamment évidemment à Gaza, et les conditions finalement qui avaient permis sa victoire. Et peut-être que là, il faut regarder aussi les conditions qui expliquent la défaite du Fatah. Ricardo Bocco.
Absolument. Il faut dire qu'on est dans l'ère post-Arafat et dans la nouvelle période inaugurée par l'élection à la présidence de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui, historiquement, est un homme de dialogue. Pendant les années 90, c'était lui qui avait essayé de convaincre Arafat d'inclure le Hamas dans l'OLP et donc d'élargir la base du consensus sur la base électorale. Ce qui va se passer en 2006 avec la victoire du Hamas, une victoire par ailleurs haut la main puisque il n'y a eu aucune fraude dans la mesure où les observateurs de l'Union européenne l'ont confirmé. Et cela pose un problème de légitimité à ce moment-là de l'autorité palestinienne qui, pendant toutes les années d'Oslo, n'a pas délivré ce que tout le monde attendait, à savoir la paix. Donc, ce n'est pas le fait que du jour au lendemain, la population palestinienne est devenue islamiste radicale. Le vote de 2006 est clairement un signe de défiance de la majorité de la population palestinienne à l'égard de l'autorité, palestinienne. Si on doit résumer un point de continuité de 93 à aujourd'hui, eh bien le fait que après les accords d'Oslo, c'est l'autorité palestinienne et ses services de sécurité qui font aujourd'hui la police sur les Palestiniens. Mmh. Et donc, les Israéliens ont pu se délester d'une tâche qui leur incombait jusqu'en 93, et pour une large secteur de la population palestinienne, l'autorité palestinienne est désormais devenue la complice d'Israël dans la surveillance de la population palestinienne.
Ricardo Bocco, pour bien comprendre les choses, pardon, parce qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, c'est évidemment des sujets extrêmement compliqués. On a ces élections donc en 2006. Juste après les élections, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, lui issu du Fatah, nomme un premier ministre issu du rang du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il faut peut-être s'intéresser à la rupture politique qui va avoir lieu. Et là, il faut remonter à juin 2007, avec ce coup de force de la police du Hamas qui conduit cette opération pour s'emparer seul du pouvoir local à Gaza.
Entre 2006 et 2007, il y a une année de fluctuation presque une année et demie de tentatives de réconciliation, d'apaisement via l'Arabie Saoudite. Il y a plusieurs réunions qui se font, mais rien ne se matérialise sur le plan d'une volonté affichée de la part de l'autorité palestinienne, car pour l'autorité palestinienne, ça a été une gifle énorme. Je veux dire, l'honneur d'une majorité des élus et non élus palestiniens qui avaient déjà perdu avant les élections de 2006 lors des élections administratives en Cisjordanie et à Gaza en 2005. Donc c'est vraiment cuisant la défaite. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Mohamed Dahlan, qui est l'ancien chef de la sécurité préventive de Gaza, lui-même issu des camps de réfugiés de Gaza, qui est l'homme fort de Gaza, va essayer, lui, avec un groupe de 500 hommes qui ont été au préalable entraînés par les Américains, de prendre le pouvoir à Gaza, mais c'est l'envers qui se produit. Et donc, en juin 2007, c'est la défaite également sur le plan militaire de l'autorité palestinienne, enfin du Fatah, à Gaza. Et donc, le Hamas s'installe officiellement.
Qu'est-ce qu'il cherche à faire à ce moment-là? Et puis ensuite, je redonnerai la parole à Alaa Abou Assira. Qu'est-ce que cherche à faire à ce moment-là le Hamas? Parce que à l'époque, après ce coup de force, Abbas refuse tout dialogue. Il dit à propos du Fatah que ce sont des putschistes, des assassins, des terroristes. Je reprends vraiment ces mots. Il qualifie cette prise de contrôle du Hamas de plan pour diviser Gaza et la Cisjordanie et établir un émirat, un mini-État contrôlé par un seul groupe, ses fanatiques et ses fondamentalistes. Est-ce que c'est ça l'objectif du Hamas à ce moment-là? C'est-à-dire faire cesser vis-à-vis de Ramallah, tout simplement.
Non, donc, Hamas, tout d'abord, n'est pas une entité homogène. Et parmi les différents groupes islamistes présents à Gaza, les frères musulmans de Hamas ne sont pas les plus radicaux. Ce sont ceux qui, en réalité, essayent une série de mesures, de tentatives, etc., dans une vision qui est celle de constituer non pas un califat, mais un émirat, en gros une forme de gouvernance islamique que pour le moment nulle part au monde arabe a été réalisée, sauf ce qu'on voit avec ISIS, mais ça c'est une autre histoire. Et donc leur vision, entre les ambitions qu'il peut afficher et la réalité, celle de l'occupation militaire israélienne, enfin, qui contrôle et qui boucle toutes les frontières, Hamas a une soupape de sécurité en quelque sorte, puisque les deux tiers de la population de Gaza sont des réfugiés enregistrés auprès des Nations Unies, et donc les deux tiers de la population gazaïe reçoit des services par l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens au Proche-Orient, en termes d'éducation, en termes de services sociaux, en termes de cliniques de santé. Donc, si vous voulez, la présence des Nations Unies à Genève, à Gaza, sert à aider 2/3 de la population gazaïque. Donc il reste avec 1/3. De cette population gazaïque, on a bien sûr un nombre important de gens qui sont pro-Hamas, mais il y a aussi les anciens du Fatah qui sont sur place. Le fait, comme expliquait Mme l'ambassadrice de Palestine, le fait que l'autorité palestinienne continue de payer des salaires et des services, etc., ben, c'est normal, puisque si elle coupait cela, ce n'est pas une question simplement de financer indirectement le Hamas, c'est question de couper ses bases de soutien à Gaza et même chez les gens du Fatah ou d'autres branches de l'OLP qui sont présents à Gaza.
Vous restez avec nous, Ricardo Bocco, et on va peut-être essayer d'améliorer un tout petit peu la ligne qui commence un petit peu à se détériorer. On va essayer d'arranger ça à la technique, on va peut-être vous rappeler. Ala Abou Assira, votre regard est peut-être en particulier sur les origines de cette lutte, sur ces événements suite aux élections de 2006, ce coup de force de 2007, des négociations, des discussions qui ont été engagées suite à ce coup de force pour essayer de rassembler les conditions d'une réconciliation qui n'a jamais pu avoir lieu. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi finalement cette réconciliation n'a pas été possible. Qu'est-ce qui bloquait d'un côté et de l'autre ?
J'ai évoqué ça, les raisons de ça tout à l'heure, mais tout d'abord, je crois qu'il est important de revenir sur les origines de ce blocage politique entre le Hamas et le Fatah. Comme vous le savez, le Hamas a été élu vainqueur des élections législatives organisées en 2006, dans des élections démocratiques et transparentes reconnues par le monde entier, y compris les Américains, George Bush à l'époque. Et le président Abbas a respecté le résultat de ces élections en nommant Ismaïl Haniyeh, le dirigeant de Hamas, comme premier ministre pour former un gouvernement. Sauf que toutes les factions palestiniennes ne voulaient pas s'engager dans ce gouvernement, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le programme politique de ce gouvernement. Tout simplement parce que le Hamas n'a pas reconnu les accords signés par l'OLP. Et c'est là où il y avait l'échec de former un premier gouvernement palestinien. C'est là où le Fatah propose à Hamas de former un gouvernement d'union nationale ensemble. Et justement, les consultations, et il y avait la médiation saoudienne, les accords de la Mecque. Sauf que le Hamas voulait garder la sécurité, contrôler la sécurité, que ce soit son appareil de sécurité qui est opératif. Dans la bande de Gaza, surtout, c'est ce qui a été refusé. Le Hamas voulait un mandat entier pour gérer ce gouvernement. C'est ce qui a été refusé. Et ça a entraîné, en fait, ça a résulté par le coup d'État très cinglant qu'on a connu en juin 2007 dans la bande de Gaza.
Je vais peut-être repasser la parole à Ricardo Bocco. Il y a beaucoup de points encore à évoquer, Ricardo Bocco, mais je voudrais comprendre finalement à quel moment est-ce qu'il y a une faille dans la démocratie palestinienne pour qu'on arrive à cette impossible réconciliation, Ricardo Bocco. Parce qu'il est question aussi là de démocratie. Il y a un problème à un moment, il y a un problème de représentativité, un problème de représentation. Ricardo Bocco.
Vous avez dit le mot, il y a un problème de représentativité. Aujourd'hui, l'a évoqué aussi la collègue palestinienne, il y a une grande défiance à la population à l'égard des partis politiques, des factions politiques. Non pas que les Palestiniens soient dépolitisés, ils sont très politisés, mais leur problème est de choisir qui peut les représenter démocratiquement. Et cette crise démocratique, ça a été évoqué tout à l'heure, lorsque Haniyeh est nommé Premier ministre, il demande à juste titre, non pas tous les ministères, mais un certain nombre de ministères. Et celui de l'intérieur est un ministère clé. Il lui est refusé. À ce moment-là, Hania se rend très bien compte que le Hamas n'a pas une expérience de gouvernement, n'a pas une expérience internationale en termes de relations publiques et à différents niveaux. Donc, elle est prête, le Hamas, à partager avec des membres du Fatah, des ministères, où les gens du Fatah sont beaucoup plus à même de traiter efficacement les dossiers. Mais dans la mesure où la question sécuritaire, l'accès au ministère de l'Intérieur leur est nié, là commence un bras de force important. Donc, autour de la question de la sécurité, il y a derrière la question d'Israël.
Voilà, justement.
A établi un comité de suivi et d'accord avec la sécurité palestinienne. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que souvent le gouvernement de l'autorité palestinienne a suivi ce que les Israéliens voulaient. Si on regarde plus récemment et après le coup d'État de 2006, les années de Salam Fayyad comme Premier ministre ont marqué la criminalisation de la résistance palestinienne, non pas à Gaza, en Cisjordanie. Si on regarde le camp de Jenin, le camp de Balata et la répression de l'autorité palestinienne envers les jeunes, c'est incroyable. Je fréquente la Palestine depuis 1993 et je peux vous dire que s'il y a eu le petit lieu que je fréquente, entre autres celui des académiques, les universités palestiniennes de Cisjordanie étaient des lieux de liberté de parole. Aujourd'hui, elles ne le sont plus depuis bien quelques années, parce que les gens ont peur de parler.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une peur, évidemment, qui traverse l'ensemble de la société palestinienne. À la bout, à Sira, j'ai vu que vous vouliez réagir, je vous en prie.
Préciser un point.
Et puis ensuite, on parlera un petit peu d'art.
Bien sûr, tout à l'heure. Mais juste attirer votre attention au rôle qu'Israël a joué aussi dans l'affaiblissement et de l'autorité palestinienne, de président Abbas, en le dénonçant comme pas partenaire pour la paix, en affaiblissant le président Abbas, y compris en Cisjordanie, où même Israël bloquait toute aide qui a été envoyée par l'autorité palestinienne à Gaza, y compris les médicaments. Et Israël a toujours tenté, et le tente toujours, de renforcer, par contre, le Hamas sur le terrain dans la bande de Gaza, parce que Israël c'est le seul bénéficiaire de cette division palestinienne. Aujourd'hui, en poussant, pourquoi Israël prend aujourd'hui la décision de diminuer l'approvisionnement de l'électricité sur la bande de Gaza, parce qu'il sait que la situation elle est au bord de l'explosion et ça va encore renforcer la division palestinienne, nous éloigner l'un de l'autre. Et il faut tenir ça toujours en
oui,
tête,
le rôle des acteurs extérieurs, évidemment, et notamment Israël.
On a parlé tout à l'heure.
Oui, on participait bien sûr de ces divisions.
Il y a plusieurs facteurs qui accentuaient cette division.
Vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup, en tout cas, à Ricardo Bocco qui était avec nous. Je rappelle qu'il est professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de l'Université de Genève. On va se demander comment, malgré les conditions, la guerre, le blocus, l'enfermement des artistes parviennent à produire et à faire connaître leur travail. On va retrouver tout de suite Marion Slitine. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez réalisé un travail de thèse sur la production artistique à Gaza entre 2012 et 2014. Vous avez conduit plusieurs enquêtes de terrain avec une bonne cinquantaine d'entretiens avec des artistes plasticiens qui se sont prolongés ensuite plus tard par des entretiens via Skype. L'accès évidemment à la bande de Gaza, on en a parlé tout à l'heure, n'étant pas aisé, y compris pour des universitaires, et c'est un euphémisme. Vous avez récemment écrit un article intitulé « Pratique de l'art contemporain à Gaza, entre blocus et mondialisation », dans lequel vous revenez justement sur la vitalité de l'art palestinien, et en particulier sur ce moment dramatique, l'été 2014, où alors qu'on est en pleine offensive israélienne sur Gaza, eh bien des artistes prouvent que l'art est possible, y compris dans des conditions les plus extrêmes. On a par exemple ces artistes qui revisitent cette célèbre affiche touristique conçue dans les années 30, dans laquelle on voit le dôme du Rocher, mais dans cette version de Arab et Tarzan Nasser, le dôme est remplacé par des bombardements. Les bombardements, ils sont aussi au cœur du travail d'un autre artiste, un plasticien, Raed Issa, qui expose, lui, sur les ruines de sa maison, qui est détruite. Il y montre le reste de ses toiles déchiquetées. C'est quelques exemples qui prouvent combien cette situation de crise peut
d'être transformé en performance artistique d'une certaine manière, Marion Slétine.
Oui, tout à fait. Enfin, vous l'avez rappelé par ces exemples, et en fait, il y en a énormément.
Je me suis inspiré de votre article, hein. Je vous rends.
Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment énormément d'exemples artistiques, que ce soit en peinture, en affiche, en art numérique, toutes sortes de médias en fait qui sont utilisés par les artistes en temps de guerre et qui montrent réellement que que le processus artistique se nourrit en fait de la situation de crise. Ouais. Et on l'a vu donc particulièrement lors de l'agression israélienne en 2014, on s'est vraiment rendu compte. Donc moi j'y suis allée un mois après et en fait je me suis rendu compte que les artistes en majorité continuaient à créer malgré évidemment toutes les contraintes et donc diffuser notamment à travers les réseaux sociaux leur art. Bon, alors les réseaux sociaux, il faut bien avoir l'électricité, il faut avoir internet, donc évidemment c'est très compliqué.
Oui, il y a un problème matériel, il y a un problème d'accès aux matériaux aussi qui est évident, notamment pour les plasticiens. Mais est-ce que cette production artistique, elle émerge en dehors de toute volonté politique, ou est-ce qu'il y a aussi de la part de l'autorité palestinienne le désir d'organiser, d'accompagner, de soutenir, alors évidemment avec quels moyens, mais cette production-là?
Il se trouve que le budget du ministère de la Culture est de 0,03%, et en plus de toute façon avec la division interpalestinienne, très peu de fonds du ministère de la Culture arrivent à Gaza, donc le champ culturel est plutôt on va dire administré par donc le ministère de la Culture du Hamas, mais qui est dérisoire. Donc du coup, depuis quelques années, c'est beaucoup plus les organisations internationales et le secteur privé en fait qui va se faire le relais de cette scène artistique.
Oui, vous dites que le ministère de la Culture s'est un petit peu désinvesti de l'administration de la culture et donc au profit effectivement d'acteurs privés, de la société civile évidemment, mais aussi d'organisations internationales. Et est-ce qu'à l'arrivée, les artistes palestiniens parviennent à profiter d'un accès au marché de l'art contemporain international et en tirer un quelconque profit? Parce que quand même, je rappelle le titre de votre article, Entre blocus et mondialisation. Est-ce que précisément ces artistes parviennent à avoir, d'une certaine manière, accès à cette mondialisation et d'en tirer un quelconque bénéfice?
Alors justement, ce qui est étonnant depuis ces dernières années, c'est justement ce double mouvement entre un mouvement donc de confinement extrême, d'isolement de plus en plus grand, et en même temps avec un marché de l'art qui s'est d'abord organisé dans les pays du Golfe et qui s'est intéressé aux artistes arabes, a d'une certaine manière un bénéficier aux artistes palestiniens en général et aux artistes de Gaza en particulier. Le problème, c'est que très souvent, les artistes sont invités à l'international, beaucoup d'artistes gazaouis sont invités à la Cité internationale des arts, à Paris notamment, et partout dans le monde. Mais donc, si leurs œuvres peuvent circuler, eux sont évidemment la plupart du temps assignés à résidence. Et donc ne peuvent pas sortir alors qu'ils sont invités, ils ont toutes les preuves possibles que c'est pour des raisons artistiques, avec évidemment un marché de l'art qui maintenant se passe aussi beaucoup via internet, etc. Il y a un accès mais qui est plutôt virtuel en fait, et ça n'enlève évidemment pas le blocus israélien et l'empêchement qu'ils ont à sortir.
Je fais réagir notre invité en plateau, mais vous restez avec nous, il nous reste encore quelques minutes. Alaa Abou Assira, vous vouliez intervenir, vous avez levé le doigt.
Oui, c'est bien sûr,
c'est un sujet qui
me touche personnellement, surtout que quand on vit dans une situation d'extrême injustice, d'extrême précarité, c'est là où on voit la créativité, c'est là l'envie de résister autrement. Et à Gaza, c'est un constat, c'est via l'art que beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes, il faut pas négliger aussi les femmes artistes présentes à Gaza. Je cite Mahadaya, je cite Dina Matar, je cite Badouane
qui justement, Nida Badouane, vous la
citez. Nida Badouane qui a justement crié de son enfermement dans sa chambre des tableaux photographiques merveilleuses en jouant avec la couleur et la lumière du jour, faute d'avoir de l'électricité.
Alors justement, j'avais prévu d'en parler, Marion Slitine, effectivement, Nida Badouane, artiste gazaoui, diplômée des Beaux-Arts de l'Université d'Al-Aqsa de Gaza, une jeune photographe qui a réalisé ce travail recluse dans sa chambre à coucher, un travail baptisé La fille en dehors, une série de clichés, des clairs-obscurs avec des couleurs très chaudes qu'on pourrait parfois confondre avec des peintures, c'est absolument magnifique, j'en ai quelques reproductions là sous les yeux. Vous nous parlez quelques instants de cet artiste, Marion Slitine ?
Oui, effectivement, enfin, et c'est très très important de rappeler la place très très grande qu'occupent les femmes dans la production artistique palestinienne en général et particulièrement à Gaza. Et donc il y a effectivement cette Nida Badouane qui dont le projet est intitulé 100 ans de solitude. Et donc effectivement, elle s'est enfermée réellement pendant plus de 100 jours, pendant une année, chez elle, même pendant la guerre, donc pendant la guerre de 2014, elle est restée dans sa maison. Et effectivement, elle a utilisé tout ce qui était possible autour d'elle dans son environnement direct pour créer des photos absolument magnifiques, très très colorées, et qui donc des scènes où elle se mettait en scène. Et où elle mettait donc en photo des scènes de la vie quotidienne. Donc quand je l'ai rencontrée, son message c'était vraiment donc tous les jours en fait elle faisait ses photos, elle les mettait ensuite sur sa page Facebook et ensuite c'était des photos qui étaient énormément diffusées et c'est devenu assez viral. Et son message, donc quand je l'ai rencontré, c'était vraiment de montrer une autre image de Gaza derrière les morts, derrière les destructions. C'était vraiment une volonté de montrer qu'il y avait de la vie et que les Gazaouis ont envie de vivre et de résister à travers l'art et à travers tout ce qui est possible autour d'eux.
Et malgré l'enfermement, évidemment, à la Abou Assira, vous avez j'en ai quelques reproductions sous les yeux, elles sont magnifiques.
Elles sont magnifiques et sublimes, surtout la couleur, vraiment. Mais Nida Badouane a pu justement faire connaître son travail merveilleux via Internet. Et on le sait tous qu'il était interdit de quitter la bande de Gaza pour faire des tournées internationales. Il a pu quitter il n'y a pas très très longtemps. Mais justement, les artistes palestiniens présents à Gaza sont concrètement coupés du monde. J'étais à la seule galerie à Gaza d'artistes et plasticiens et peintres qui s'appelle El Teqa. Et j'ai eu le même constat. On reçoit des invitations pour participer à des expositions à l'international, mais on ne peut pas sortir. On ne peut pas envoyer non plus nos productions faute d'obtenir une assurance parce que ça va voyager via le Sinaï, c'est risqué, aucune compagnie ne donne l'assurance. Et par rapport aux galeries dans le Golfe, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une présence plus forte des artistes palestiniens, mais ce sont les artistes qui séjournent à l'étranger et non en Palestine, malheureusement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marion Slitine qui a été avec nous par téléphone. Un grand merci à vous, à la Abou Assira, de nous avoir accompagnés, d'avoir eu cet échange libre, sincère, franc. Merci infiniment. Il est 11h passé de presque 53 minutes. L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, suite de vos chroniques consacrées à l'énergie, vous nous avez déprimé en montrant que l'éolien et le solaire n'avaient trouvé qu'une place marginale dans le mix énergétique mondial, ça c'était hier, mais enfin il y a aussi l'énergie hydroélectrique, voilà enfin une énergie renouvelable abondante.
Oui, oui, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, les médias comme le public pensent surtout aux éoliennes et aux panneaux solaires. Et c'est surtout autour de l'éolien et du solaire que se polarisent les débats sur l'énergie, mais en l'état actuel des choses. Ce qu'on appelle énergie verte, c'est principalement l'électricité fournie par les cours d'eau et les lacs. Bref, l'électricité d'origine hydraulique. Actuellement, à l'échelle mondiale, ces barrages fournissent deux fois plus d'électricité que toutes les autres énergies renouvelables additionnées. L'hydroélectrique représente 16% de la production mondiale d'électricité et c'est la troisième source derrière les centrales au charbon et au gaz, qui en fournissent respectivement 40% et 19%. Le nucléaire, lui, n'arrive qu'en quatrième position avec 10%, et le reste est en effet marginal. La transition énergétique voulue par la grande majorité des États devra donc passer d'abord par la multiplication des barrages. Mais si l'on additionne tous les projets d'en créer de nouveaux, on doit s'attendre à une augmentation de la capacité hydraulique de 50% d'ici 2040, selon Giulio Boccaletti. Mais il faut savoir que cela aurait un impact sur pas loin de 300 000 km de cours d'eau, car les énergies renouvelables, elles aussi, ont un impact environnemental, et pas seulement sur les paysages. La Chine est de très loin la première productrice d'électricité hydraulique dans le monde. Elle en consomme trois fois plus que le Canada, qui est le deuxième producteur et qui est à peu près à égalité avec le Brésil. Les États-Unis, eux, n'arrivent qu'en quatrième position. Mais les habitants des villes et des villages engloutis pour la création du gigantesque barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze-Tiang l'ont payé cher. On estime à 1 800 000 le nombre de personnes expulsées, et c'est 2,3 km de long sur 185 mètres de hauteur auront nécessité 27 millions de mètres cubes, ce qui n'est pas très écologique, vous en conviendrez.
Alors, j'en conviens absolument, Brice Couturier, mais dans les pays du Sud, en développement pour la plupart, la ressource hydraulique est souvent la seule disponible et ils ont évidemment un très grand besoin d'électricité.
Certes, mais prenez le barrage Gib 3 en Éthiopie. La revue « 6 mois » publie dans son numéro de cet été un reportage impressionnant et illustré de photos révélatrices sur sa construction. Voilà un exemple frappant des dommages collatéraux imprévus que peut occasionner la soif d'électricité. Situé à 350 km d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, Gib 3, barrage géant, est destiné à alimenter en énergie un pays africain en croissance très rapide, mais dépourvu de gaz ou de pétrole. Il est situé sur la rivière Omo, à proximité du Kenya. Construit par les Chinois, c'est le plus grand barrage d'Afrique de l'Est, avec une hauteur, tenez-vous bien, de 243 mètres de haut. Pour donner un ordre de grandeur, rappelons que la tour Montparnasse ne fait que 209 mètres. Ce monstre de béton que la Banque européenne d'investissement a refusé de financer par crainte de ses conséquences sur l'environnement menace l'existence même du lac Turkana. Ce lac, situé pour partie en Éthiopie, mais pour l'essentiel au Kenya, est le plus grand lac désertique du monde et son niveau ne cesse de baisser. On craint son assèchement à terme. Mais le reportage de Fausto Podavini pour la revue 6 mois que je citais insiste surtout sur les dommages humains du barrage. Les tribus qui vivaient sur place de la chasse et de l'élevage grâce aux berges fertilisées sont chassées de leur propre territoire. Non seulement les populations locales ne bénéficient en rien de la richesse créée sous leurs yeux par le barrage, mais elles n'ont même pas accès à cette électricité qui transite par leur village. Or, la RDC est en train de construire un barrage encore plus gigantesque sur le fleuve Congo, le Grand Inga 3, le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Problème, les organisations écologistes estiment que dans les régions tropicales, les barrages provoquent une activité bactériologique responsable de fortes quantités de méthane dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Giulio Boccaletti est le directeur exécutif du programme eau de la puissante ONG The Nature Conservancy. Il met en garde contre l'installation désordonnée de nouveaux barrages. Son organisation estime à près de 100 millions le nombre de personnes qui sur la planète vivent de l'eau douce, que ce soit sous la forme de la pêche, de transports fluviaux ou de toute autre activité. Mais dans bien des pays du Sud, l'eau, c'est la vie. C'est pourquoi les villages s'installent au bord des fleuves et des rivières. Avant de construire de nouveaux barrages qui vont perturber de fragiles équilibres, il est donc nécessaire, je cite, de mieux anticiper et d'équilibrer les effets environnementaux, sociaux et économiques des projets de barrages. Il faut donc cesser de considérer les barrages uniquement comme des sources d'énergie. Il faut prendre en considération d'autres fonctions à ne pas négliger, telles que la navigation fluviale, la gestion de l'eau et le contrôle des inondations. Et Nature Conservancy de prôner, je cite, une approche globale incluant en amont ces différents facteurs avant de se lancer dans toute nouvelle construction.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique et pour toute la série consacrée aux politiques énergétiques qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture.